Je n'aurais pu aimer qu'un homme qui lui ressemblât, pensa Isabelle. Et jamais je n'aimerai, car jamais je ne trouverai d'homme à sa semblance. Puis, à voix haute, ce n'est point pour pleurer sur mes maux que je suis venu en France, mon père, mais je suis aise que vous m'ayez rappelé ce respect de soi qui convient aux personnes royales, et aussi que le bonheur n'est point ce que nous devons poursuivre. J'aimerais seulement qu'autour de vous chacun en pensât autant. Pourquoi êtes-vous venu ? Elle prit son souffle. Parce que mes frères ont épousé des garces, mon père, que je l'ai su, et que je suis aussi âpre que vous à défendre l'honneur. Philippe le Bel soupira. Vous n'aimez pas, je le sais, vos belles-sœurs, mais ce qui vous en sépare...
Ce qui m'en sépare, mon père, c'est l'honnêteté. Je sais des choses que l'on vous a cachées. Écoutez-moi, car je ne vous apporte point seulement des mots. Connaissez-vous le jeune messire Gautier d'Aunay ?
Ils sont deux frères que je confonds toujours. Leur père fut avec moi en Flandre. Celui dont vous me parlez a épousé une Montmorency, n'est-il pas vrai ? Et il est à mon fils Poitiers, comme écuyer.
Il est également à votre Bru Blanche, mais d'une autre façon. Son frère cadet Philippe, qui est à mon oncle Valois.
Oui, dit le roi, oui. Un léger pli horizontal partageait son front ordinairement dépourvu de toute ride.
Eh bien, celui-là est à Marguerite, que vous avez choisie pour être un jour reine de France. Quant à Jeanne, on ne lui nomme pas d'amant, mais on sait au moins qu'elle couvre les plaisirs de sa sœur et de sa cousine, protège les visites de leurs galants à la tour de Nesle, et s'acquitte très bien d'un métier qui a un fort vieux nom. Et apprenez que toute la cour en parle, sauf à vous.
Philippe le Bel leva la main.
Vos preuves, Isabelle.
Vous les trouverez à la ceinture des frères d'Aunay. Vous y verrez pendre des aumônières que j'ai envoyées l'autre mois à mes belles-sœurs et que j'ai reconnues hier sur ces gentilshommes dans l'escorte qui m'a mené ici. Je ne me fense pas du peu de cas que vos brus font de mes présents, mais de tels joyaux accordés à des écuyers ne peuvent être que le paiement d'un service. Cherchez le service. S'il vous faut d'autres faits, je crois pouvoir facilement vous les fournir.
Philippe le Bel regardait sa fille. Elle avait porté son accusation sans hésiter, sans faiblir, avec au fond des yeux quelque chose de déterminé, d'irréductible, où il se retrouvait. Elle était vraiment sa fille. Il se leva et resta un long moment debout devant la fenêtre.
« Venez, dit-il enfin, allons chez elle. »
Il ouvrit la porte, traversa une pièce sombre, poussa une seconde porte qui donnait sur le chemin de ronde. D'un coup, le vent de la nuit les enveloppa, faisant battre et flotter derrière eux leurs amples vêtements. De courtes rafales secouaient les ardoises du toit. D'en bas montait l'odeur de la terre humide. Devant les pas du roi et de sa fille, des archers se levaient le long des créneaux. Les trois brus avaient leurs appartements dans l'autre aile du château de Maubuisson. Quand il se trouva devant la porte des princesses, Philippe le Bel s'arrêta un instant. Il écouta. Des rires et de petits cris de joie lui parvenaient à travers le ventail de chêne. Il regarda Isabelle.
« Il faut, » dit-il.
Isabelle inclina la tête sans répondre. Le roi ouvrit la porte. Marguerite, Jeanne et Blanche poussèrent un cri de surprise et leurs rires se cassèrent net. Elles étaient en train de jouer avec des marionnettes. Elles reconstituaient une scène inventée par elles et qui, réglée par un maître jongleur, les avait fort diverties un jour à Vincennes, mais dont le roi s'était irrité. Les marionnettes étaient faites à l'image des principaux personnages de la cour. Le petit décor représentait la chambre du roi où celui-ci figurait, couché dans un lit paré d'un drap d'or. Monseigneur de Valois frappait à la porte et demandait à parler à son frère. Hugues de Bouville, le grand chambellan, répondait que le roi ne voulait parler à personne et avait défendu qu'on le dérangeât. Monseigneur de Valois s'en repartait tout en colère. Venaient ensuite cogner à lui les marionnettes de Louis de Navarre et du prince Charles. Bouville faisait au fils du roi la même réponse. Enfin, précédé de trois sergents massiers, se présentait Enguerrand de Marigny. Aussitôt, on lui ouvrait la porte tout grand en lui disant « Monseigneur, soyez le bienvenu ». Le roi a désir de vous voir. » Cette satire avait paru déplacée à Philippe le Bel. Il avait interdit qu'on la répétât. Mais les jeunes princesses passaient outre, en secret, y prenant d'autant plus de plaisir que c'était amusement défendu. Elles variaient le texte et renchérissaient de trouvailles et de moqueries, surtout quand elles maniaient les marionnettes qui représentaient leur mari. Elles furent à l'entrée du roi et d'Isabelle comme trois écolières prises en faute. En hâte, Marguerite ramassa un surcot qui traînait sur un siège et le revêtit pour couvrir sa gorge trop dénudée. Blanche releva ses tresses qu'elle avait dérangées en simulant le courroux de l'oncle Valois. Jeanne, qui gardait le mieux son calme, dit vivement « Nous avons fini, sire. Nous avons juste fini, mais vous auriez pu tout entendre sans qu'il eût motif à vous courroucer. Nous allons tout ranger. » Elle frappa dans ses mains. « Hola, Beaumont, comme un je, mais bonne !»« Inutile d'appeler vos dames, » dit brièvement le roi.